Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'urgentiste Patrick Peloux serait-il l'arbre qui cache la forêt après le cinéma? MeToo s'invite à l'hôpital. Témoignage dès le début de ce journal. C'est le patron le mieux payé de France. 36 millions d'euros pour Carlos Tavares. Laisse bien mériter. Le DG de Stellantis se défend et se compare aux joueurs de foot. Les actionnaires doivent trancher aujourd'hui. Et puis Kylian Mbappé va lui devoir prouver qu'il mérite son salaire ce soir sur la pelouse du Barça. Match retour du PSG qui va tenter de décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Les témoignages se multiplient à l'hôpital.
Et les langues se délient pour dénoncer le sexisme et les agressions sexuelles qui gangrènent aussi ce milieu. Une nouvelle vague MeToo permise par la prise de parole de l'infectiologue Karine Lacombe qui a dénoncé la semaine dernière les comportements du célèbre urgentiste Patrick Peloux. Un coup de projecteur sur le milieu médical. Selon la Fédération des étudiants infirmiers, une élève sur six a été victime d'agressions sexuelles. En grande majorité, Johanna Chabas, au cours d'un stage.
4 ans après, Marie se souvient très bien de son début de stage dans un service de chirurgie à Paris.
Il y a un médecin, un supérieur hiérarchique, qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement. Je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Après les paroles, s'en est suivi des gestes. Me claquer la cuisse, me toucher le dos par surprise le matin pour me dire bonjour en disant « mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas ».
Autre témoignage, cette stagiaire qui préfère rester anonyme. Pour elle, l'omerta est toujours trop forte.
C'était des remarques déplacées. Sexiste, en mode vous devriez ouvrir plus votre blouse. C'est difficile de réagir en tant que stagiaire. On est tout le temps évalué. Pour être évalué et que ça se passe bien, il vaut mieux rien dire.
Selon Anna Boctor, vice-présidente du syndicat des jeunes médecins, le milieu hospitalier, très hiérarchique, est propice à cette violence.
Les postes à pouvoir, comme les professeurs universitaires, sont majoritairement occupés par des hommes, donc à 80%. Et en fait, ces personnes qui ont les pleins pouvoirs vont se protéger, vont se couvrir, et qui fait que forcément, les premières victimes sont des femmes.
Elle encourage les victimes à prendre la parole. Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris a ouvert un appel à témoignages.
Et à 7h10, retrouvez l'interview d'Apolline avec la professeure Coraline Ingré, médecin psychiatre au CHU de Nancy et vice-présidente de l'association Donner des ailes à la santé. Il est 6h33, Israël promet une riposte à l'Iran sans en préciser la nature après l'attaque historique de Téhéran sur l'État hébreu ce week-end. Et ce malgré les appels au calme répétés par la communauté internationale qui craint l'embrasement dans cette région déjà marquée par la guerre à Gaza. Car l'escalade au Proche-Orient aurait forcément des répercussions, notamment économiques. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire craint un impact lourd sur la France, crainte partagée par le spécialiste de l'énergie Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine.
Bruno Le Maire en a raison. Dans le scénario catastrophe que nous ne pouvons pas exclure, qui oblige les Iraniens à bloquer le détroit d'Ormuz, où passe quand même à peu près un quart du pétrole mondial, ce serait un choc pétrolier, d'un choc gazier aussi. Le Qatar est un très important producteur de gaz naturel liquéfié. Ce GNL sort lui aussi par le détroit d'Ormuz. À ce moment-là, on change totalement de dimension et l'impact direct en est considérable pour l'économie française.
Lui n'aura a priori aucune difficulté à faire son plein, même si les prix du pétrole s'envolent. Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui pourrait gagner 36,5 millions d'euros pour ses services l'an dernier, année record pour le groupe automobile. Les actionnaires doivent se prononcer aujourd'hui en assemblée générale. On parle tout de même de 100 000 euros par jour, un salaire digne des footballeurs. C'est d'ailleurs à eux que se compare Carlos Tavares, mais qui ne manque pas de faire grincer des dents dans les usines françaises du groupe Marion Gauthier.
C'est l'écart de rémunération entre le patron et ses salariés qui dérange Jérôme Boussard, le secrétaire général CGT de l'usine de Sochaux.
Quand on voit que M. Tavares va toucher 100 000 euros par jour et qu'il continue à casser les emplois et à mettre en concurrence les salariés à travers le monde chez Stellantis, c'est complètement indécent.
Sans parler des dernières négociations salariales, les augmentations ne sont même pas au niveau de l'inflation, regrette le délégué central CFDT Benoît Vernier.
Le problème pour nous, il est dans la cohérence. Chaque jour, on nous demande de la frugalité. On a des problèmes de toiture qu'il faut réparer, c'est la croix et la bannière pour avoir les investissements. Dès qu'il faut sortir un euro, il faut batailler.
Mais certains élus nuancent et justifient hors micro la rémunération de Carlos Tavares, qui a sauvé l'entreprise PSA du naufrage, rappelle Christian Lafaye, un ancien syndicaliste force ouvrière tout juste retraité.
Pour moi, Carlos Tavares, c'est le Mbappé de l'automobile. Si on veut un grand capitaine, oui, ça se paye. Maintenant, 36 millions, c'est démesuré. Si c'était 10 de moins, ça serait peut-être plus audible.
Il s'insurge plutôt des milliards reversés aux actionnaires. Tavares, lui au moins, dit-il, il bosse.
6h35, le Mbappé du football, le vrai, va devoir briller ce soir car le Paris Saint-Germain joue sa place en demi-finale de Ligue des Champions à 21h. Match retour après la défaite 3-2 des Parisiens face au Barça qui doivent donc absolument s'imposer par plus d'un but d'écart pour éviter, pour se qualifier sans passer par les prolongations. Et pour ça, Fabrice Hawkins, il va nous falloir un très grand Kylian Mbappé.
Oui, c'est peut-être le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le PSG. Le buteur est sous pression, mais pour son ami et défenseur Achraf Hakimi, l'attaquant star du Paris Saint-Germain sera au rendez-vous.
Je le sens très très bien, je le sens très motivé, comme toute l'équipe. C'est le moment de le grand joueur de donner tout et de sortir tout de ce qu'on a à l'intérieur pour prendre la victoire.
Luis Enrique ne veut pas mettre en avant un joueur plus qu'un autre.
Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner, tous ceux qui font partie du PSG.
Car le champion du monde est important, mais la réponse du club de la capitale sera avant tout collective, explique l'entraîneur espagnol.
Ce deuxième match est différent car nous n'avons pas joué entre les deux et nous avons eu le temps d'analyser et essayer de nous améliorer. Nous devons nous surpasser et montrer une meilleure version de nous-mêmes. Nous ne spéculons pas et nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation.
Kylian Mbappé sait qu'il est très attendu après son match raté à l'aller. Le Barça est un adversaire que le Parisien adore. Il a déjà marqué 4 buts face aux Catalans.
Barça-PSG avec une soirée spéciale sur RMC dès 18h. Match à suivre en intégralité en direct du Stade Olympique de Montjuïc avec Christophe Dugarry au commentaire. Et à la télé, le match est à suivre sur RMC Sport 1. L'autre affiche ce soir, c'est Borussia Dortmund-Atlético de Madrid. Mais avant cela, un mot des Jeux Olympiques, puisque c'est aujourd'hui que la flamme sera allumée à Olympie, en Grèce. Et pour l'occasion, ne manquez pas l'interview du patron de Paris 2024, Tony Estanguet, à 8h35 sur RMC Story.
Le quintet, 13h55 sur l'hippodrome d'Auteuil.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As, You For Me, et l'outsider, c'est le 8, Camiador. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. On vous retrouve pour le journal de 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les parents doivent tenir leurs gosses. Voilà ce qu'avait dit le ministre de la Justice après les émeutes de l'été dernier en France. Un texte pour durcir les sanctions contre les parents d'enfants délinquants est en préparation. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Dissuasif ou insuffisant, je vous attends au 32-16 pour en débattre tout de suite sur RMC.
RMC Police Justice.
Mais c'est l'heure de l'histoire du jour, repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Guillaume, chef du service police-justice, ce matin vous nous racontez l'affaire de ce policier de Saint-Brieuc condamné pour avoir harcelé un de ses collègues et même brûlé sa voiture.
Et oui, au tout départ, ce sont leurs cœurs qui se sont enflammés. Une histoire sentimentale, puis amicale, entre un fonctionnaire expérimenté de 45 ans et un jeune collègue, policier adjoint de 24 ans. Mais au fil du temps, eh bien, leur histoire a tourné au vinaigre et viré au harcèlement. Le plus âgé des deux est accusé d'avoir suivi un peu partout son collègue, ce qu'il a contesté à l'audience. Pourtant, les vérifications téléphoniques de l'IGPN montrent qu'il était régulièrement sur la route de son ex-ami, devant chez lui, devant chez sa mère, devant chez sa grand-mère aussi, ou encore sur le même lieu de vacances ou le même lieu de soirée. Un hasard selon le prévenu, sauf peut-être la fois où il a été retrouvé caché dans une mare près du domicile de la victime qui avait fini par appeler les forces de l'ordre. Summum de cette affaire, le policier est aussi soupçonné d'avoir incendié la voiture de son jeune collègue. Pour tous ces faits, hier, le tribunal de Saint-Malo, où l'affaire avait été dépaysée, a condamné l'officier de police judiciaire à 18 mois de prison avec sursis et à être radié de la fonction publique, précise Ouest France. Quant à sa victime, bien c'est un peu particulier. Le jeune fonctionnaire, lui, est en prison, pas pour cette affaire, non, rien à voir, mais il est mis en examen et provisoirement incarcéré dans une sombre histoire de cambriolage, pas encore jugé. Enfin, en attendant, dans sa cellule, eh bien, il échappe au harcèlement de son ex-collègue.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h42, très bon réveil à tous.
À vous de nous dire.
Les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, tous les parents le savent. Les parents ont des droits, ils ont des devoirs, et aussi, si ce n'est pas suffisant, une obligation légale. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux.
Tenez vos gosses, voilà ce que disait le ministre de la Justice, vous l'avez reconnu, Éric Dupond-Moretti. C'était il y a 9 mois, juste après les émeutes du début de l'été, les émeutes notamment en Île-de-France, mais aussi dans tout le territoire, après la mort de Naël. Il promettait la fermeté et c'était donc, on apprend ce matin que ses promesses arrivent à exécution, puisque le ministère de la Justice va durcir les sanctions contre les parents des mineurs délinquants. Jusqu'à 3 ans de prison contre 2 ans aujourd'hui, 45 000 euros d'amende contre 30 000 aujourd'hui. Ce sont les informations obtenues par le journal L'Opinion, confirmées par RMC ce matin. Le gouvernement qui veut même aller plus loin, sanctionner l'idée, l'absence des parents lors des audiences judiciaires. Vous vous en souvenez sans doute, on en avait beaucoup parlé lors des comparutions immédiates juste après les premiers jours des émeutes. Les juges eux-mêmes disaient combien ils étaient stupéfaits de voir que dans les premiers rangs dans les tribunaux, il y avait les mères, souvent en larmes, il y avait les sœurs, parfois les copines, mais il n'y avait pas de père qui soit présent dans les tribunaux. Et encore, les mères n'étaient là que quand elles pouvaient, que quand elles n'étaient pas en train de travailler. Est-ce qu'il faut sanctionner l'absence des parents lors des audiences judiciaires? Tout cela vous semble-t-il justifié ou pas suffisamment dissuasif? On en parle ensemble au 32-16. J'accueille évidemment autour de moi Charles qui tient la boutique, Victor Joannin qui remplace Emmanuel Le Chip cette semaine, Laurent Neumann qui est avec nous pour expliquer nous. Vous le savez, il y a eu aussi le contexte, même si les décisions du ministère de la Justice ont été prises il y a plusieurs semaines. Mais depuis, il y a eu cette série de drames de collégiens, Viry Châtillon avec Shamsidine, il y a eu Samara bien sûr. On en parle avec vous tous. Il y a Mohamed qui est là au 32-16. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour madame, bonjour monsieur, dame à tous.
Comment ça va vous être?
Intimidé.
Ah bah écoutez, ne le soyez pas. Moi je suis très contente d'être avec vous ce matin. Vous êtes où? Vous êtes au volant ce matin, c'est ça?
Ouais, là j'attends un client à Gare d'Austerlitz pour... Okay. Je suis VTC.
Ok, VTC, on espère juste que le client va pas arriver trop vite et qu'il va vous laisser le temps. Ok. Mohamed, vous avez appelé et vous vouliez témoigner à la fois de ce que vous avez vécu enfant, parce que si je comprends bien, vous avez été placé, et le fait que vous soyez parent aujourd'hui, c'est ça?
Oui, c'est ça. On m'a enlevé à ma mère, j'avais 13 ans et maintenant j'ai 4 enfants. Et j'essaie de faire des choses que mes parents ils n'ont pas pu faire pour moi. Parce que c'était plus dur, j'ai grandi à Mantes, là, je l'ai au Val-Fouré.
Ouais.
Et pour moi, on ne peut
région
pas.
Région parisienne. Hein.
Voilà, c'est ça. Et je suis parti à Chartres pour éviter tout par rapport à mes enfants. J'ai quitté la région parisienne pour leur éducation.
Vous habitez maintenant à Chartres?
À 8 ans, exactement.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça.
Et pour quitter ça, non mais c'est très frappant, et vous êtes assez nombreux à nous dire ça. Hein. On se souvient la semaine dernière avec Charles, on a aussi accueilli le témoignage d'une personne qui, comme vous, avait grandi en région parisienne et qui s'était dit, je veux partir, je veux les éduquer ailleurs. Mohamed, racontez-nous pourquoi à 13 ans vous êtes retiré à votre mère?
En fait, moi, ma mère, elle m'a ramené du Maroc, j'avais 10 ans, et en fait, elle n'avait pas de cœur pour moi, en fait. Elle me tapait, elle m'envoyait à l'école sans manger toute la journée. Et par contre, pourtant, je lui pardonne. Mais voilà, elle a fait des choses que je ne méritais pas, et on m'a enlevé de la maison.
Est-ce que la DAS, ce qu'on appelait la DAS à l'époque, hein, c'est vous qui dites le mot, mais aujourd'hui qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est-ce que eux ont su vous accompagner?
En fait, ouais, c'est ça. Je remercie Bénédicte, peut-être qu'elle se rappellera de moi. C'est mon éducatrice. Elle m'a ramené en fait en famille d'accueil en Normandie, à Brionne, et c'est ça qui m'a aidé. Le foyer, ça aide personne. Faut pas envoyer des enfants dans des foyers parce que déjà ils sont perdus. Et en plus de ça, on l'attrape, on le met dans un foyer où on est 80. Comment vous voulez qu'il grandisse bien? Parce qu'il se retrouve, il dit « Ouais, je suis trop bien. On m'achète des habits tous les 3 mois. Je sors, je vais en colonie de vacances. Mes parents, ils craignent rien parce que je peux être délinquant sans que mes parents, on vient les taper sur les doigts. En famille d'accueil, avec des moutons, des vaches, des cochons, je sais pas, moi. Et comme ça, le gosse, il va grandir dans un milieu naturel. Il sera mieux, un peu mieux que le faire grandir dans un foyer. C'est un peu plus dur.
Vous avez saisi cette... Vous dites c'est une chance, mais honnêtement, vous l'avez saisi. Et Mohamed, aujourd'hui, quel père vous êtes, justement, aujourd'hui? Est-ce que vous estimez, a posteriori, que oui, les parents ont une forme de responsabilité? Est-ce que vous dites, j'ai pardonné à ma mère, mais est-ce que vous estimez quand même qu'elle a manqué à ses responsabilités?
En fait, on était 8. Et du coup, moi, j'étais élevé par ma grand-mère. C'est pas de sa faute. Parce qu'elle a divorcé, elle s'est remariée. Et le problème, c'est pas ça. C'est qu'en fait, faut l'aider. Faut les accompagner. Faut les grands de quartier. Les éducateurs de quartier. La police approximative, à proximité, pour qu'ils puissent venir parler avec les jeunes. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Ça tue tout.
Comment vous faites avec vos enfants, Mohamed? Est-ce que vos enfants, ils ont quel âge vos enfants?
Moi, mon grand, il a 11 ans, 8 ans, 6 ans et 4 ans.
Ah ouais, c'est costaud quand même.
Ouais, mais parce que en fait, j'étais pressé de faire. En fait, ce qui m'a fait, qui m'a aidé quand j'étais plus jeune, c'est que je voulais me marier, et fonder une famille et donner l'amour que j'ai pas eu pour le donner à mes enfants.
Mohamed, vous voulez pas venir nous voir dans le studio? Franchement, je trouve que non, mais votre témoignage, il est remarquable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on parle toujours en théorie de toutes ces questions-là, de la question de l'aide à l'enfance, de la question. Bon, quand on entend un témoignage comme le vôtre, qui avait poussé bon an mal an avec ses difficultés et qui aujourd'hui fait ce que vous faites, c'est franchement chapeau. Je sais pas comment vous le dire autrement, Mohamed. Je suis même étonnée que vous soyez intimidé parce que c'est vous devriez. Voilà, c'est franchement chapeau quoi.
Ah, j'étais larmes aux yeux, mais c'est pas ça. C'est que en fait, c'est que c'est grâce à ma femme, parce que sans un homme, forcément il y a une grande femme à côté. Et j'ai rencontré ma femme dans le bus. Najwa.
Comment elle s'appelle?
Elle ouais, Najwa.
Ok, et ben on la salue aussi parce que effectivement j'imagine que ça tient aussi grâce à elle. Mohamed, votre témoignage il est remarquable. À partir de ça aussi, on va réfléchir à cette question de la responsabilité. Mais on le sent bien, comme vous dites, les choses sont à la fois en maîtrise. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, vous avez fait de l'éducation de vos enfants votre priorité, quoi.
Oui, moi mes enfants c'est tout pour moi. Ça veut dire que je donne pas raison à mon fils parce qu'il me dit la maîtresse, papa la maîtresse, elle m'a grondé. Je lui dis non. Je fais quoi? Ma femme, elle a un peu plus d'études que moi. Moi, j'ai bac moins 6, elle a bac plus 2, tu vois. et du coup, moi, j'ai l'éducation de la rue. Ma femme, elle a été à l'école. Du coup, on essaie de pas donner raison aux enfants parce que c'est un gros vice. Quand un enfant, il vient te voir, il dit, ouais, papa, la maîtresse, elle m'a dit ça, faut pas monter au créneau et aller droit, commencer à dire des insultes à la maîtresse.
Par principe,
elle a rien fait.
Par principe, voilà, vous considérez que c'est la maîtresse qui a raison. C'est-à-dire, c'est aussi, vous reconnaissez l'autorité du maître, de la maîtresse. Merci, Mohamed, pour votre témoignage. Maintenant que vous avez poussé la porte du 32-16, j'espère que vous reviendrez.
Bien sûr, avec plaisir.
Ok, allez, bonne journée. Ouais, on embrasse votre femme et les enfants. Vous êtes
allez
bien.
Paris.
Vous êtes bien.
Et allez Paris.
Et allez Paris.
Oh là là, c'était parfait, mais c'était plus que parfait maintenant.
Allez, il est 6h50. On reste tous ensemble. On vous attend au 32-16.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, racontez-nous, Laurent.
Emmaüs, l'association fondée par l'abbé Pierre qui part en guerre contre la fast fashion, je vous raconte tout.
Et puis on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Mais on va parler de notre passion commune, nous les matinaliers, la sieste.
Ah oh ouais, tellement. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 6h53, racontez-nous.
Racontez-nous,
Laurent Neumann. Ce matin, Laurent, vous nous racontez comment Emmaüs a décidé de partir en guerre contre Amazon et les sites de fast fashion.
Oui, alors pour le coup, c'est David contre Goliath, évidemment. Emmaüs, c'est l'association fondée par l'abbé Pierre en 1949 qui part en effet en croisade contre la concurrence déloyale des géants du commerce en ligne. Vous savez, Amazon, bien sûr, mais aussi tous ces sites chinois, Temu, Chine, AliExpress. Vous savez, ces sites où vous trouvez un t-shirt à 4 euros, une petite robe noire à 7 ou 8 euros. Eh bien, Emmaüs, qui a lancé son propre site internet en 2016, souffre des pratiques commerciales de ces géants, les publicités incessantes, les livraisons toujours plus rapides, les prix tirés vers le bas, et du coup les ventes d'Emmaüs sont en chute libre de 20% sur les premiers mois de 2024, pendant que celles de Chine par exemple ont progressé de 900% en 3 ans. Alors impossible de résister face à ces sites qui proposent jusqu'à 8000 nouveaux produits par jour ou Amazon qui livre gratuitement. Et ne croyez pas que ça ne concerne que les vêtements. Ça concerne aussi les livres d'occasion. Emmaüs en collecte 20 millions par an. C'est un tiers de ses revenus et les ventes, là aussi, sont sur le toboggan.
Mais une loi a été votée le 14 mars dernier à l'Assemblée pour contrecarrer ces géants de la vente en ligne.
Oui, une loi votée à l'unanimité, ce qui est rare, vous l'avouerez, qui prévoit la mise en place d'un bonus-malus pour les entreprises textiles et surtout l'interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion. Alors évidemment, Emmaüs soutient cette loi qui doit encore être votée au Sénat. Elle ferait de la France le premier pays au monde à s'attaquer à cette mode jetable. Tiens, je vous donne deux chiffres. La fast fashion aujourd'hui est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et elle est responsable à elle seule d'un tiers des transports aériens de marchandises. Donc j'ai un petit message à vous faire passer, à tous, à Charles, à Pauline, ce matin. Non seulement il faut donner à Emmaüs tout ce dont vous n'avez plus besoin, mais il faut aller sur le site acheter tout ça. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les droits sociaux, et en plus, vous faites une bonne action.
Et on n'avait pas osé vous en parler, mais Charles est là.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Charles, je ne peux que vous soutenir. Vous plaidez ce matin pour la sieste au travail.
Oui, vive la sieste, Apolline. C'est pas vous les amis du matin que non. Je vais la prendre, mais même les travailleurs qui ont des horaires plus classiques, des horaires de bureau, sont de fervents partisans de la sieste au boulot. Sondage américain mené auprès de 1200 employés, un tiers d'entre eux avouent faire régulièrement la sieste pendant leurs horaires de travail, sieste de 15 minutes en moyenne pour ceux qui bossent en présentiel, mais cette durée monte jusqu'à une heure pour ceux qui télétravaillent. Ce sont en majorité les hommes qui s'accordent ce petit roupillon au milieu de la journée de boulot, et en particulier les jeunes, les salariés de moins de 35 ans visiblement. La nouvelle génération est moins gênée à l'idée de dormir un peu au travail. Il faut dire que les bienfaits de la sieste ont été maintes fois démontrés par la science. Ça compense une dette de sommeil la nuit, ça rebooste la productivité pour les heures suivantes. Les Américains ont même une expression pour ça, la power nap, la sieste réparatrice qui vous redonne des forces. En France, la sieste...
J'ai l'impression que c'est comme la petite batterie du téléphone. Ouais.
Exactement. Quand la batterie est un peu faible, une petite power nap. En France, la sieste au boulot est loin d'être devenue une habitude, même si de plus en plus d'entreprises des salles de repos qui permettent de fermer un peu les yeux. D'ailleurs, dans un sondage mené l'an dernier, 7 Français sur 10 se disaient favorables à la sieste au travail, à une condition, ne pas devoir partir plus tard le soir.
Voilà. La question, c'est comment ils s'organisent pour cette petite sieste au travail?
Est-ce que c'est assumé vis-à-vis du patron ou est-ce qu'on le fait discrètement? Ça, à chacun sa technique.
En petite loose day. Moi, j'ai toujours mes boules caisses dans mon sac.
Voilà.
Un moment, hop, dans un petit coin... Hop, non, c'est Apolline qui dort.
Voilà, c'est vrai.
Il est 6h56 dans un instant. La météo et le journal, à la une du journal de 7h, le ministre de la Justice qui veut donc durcir les sanctions contre les parents d'enfants délinquants. Tous les détails dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.